Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Alors que nous nous demandons tous quand nous allons sortir du tunnel et que nous cherchons à distinguer à nouveau l'horizon, je vous propose de prendre le contre-pied ce matin et de regarder en arrière, loin en arrière, très loin, jusqu'au commencement du monde, jusqu'au Big Bang. Un voyage dans le temps à la recherche de ce moment zéro, comme le disent certains. Un défi pour l'intelligence humaine, mais aussi un défi pour la foi. Car dans l'esprit de beaucoup, le Big Bang invaliderait la foi, quand pour d'autres, le Big Bang prolongerait le récit biblique. Quoi qu'il en soit, rien de tel pour se remonter le moral que de se rendre compte que le temps est notre allié. Le Big Bang et la foi, c'est le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, rien que cela. Pour nous en parler, autour du plateau, Jean-Michel Maldamé, à nouveau. Vous êtes religieux dominicain, prêtre et membre honoraire de l'Académie pontificale des sciences. Bonjour.
Bonjour.
Et François Couderque, vous êtes diacre et professeur à l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier. Bonjour.
Oui, bonjour.
Voilà, alors vous êtes confiné parce que vous rentrez de voyage à l'étranger. On aurait préféré vous avoir en plateau, mais on va dire que les circonstances sanitaires nous obligent à ce distanciel, comme on dit. Mais vous êtes avec nous, évidemment. Alors, le Big Bang et la foi, on s'est dit qu'on allait au long de cette fin d'année, enfin demi-année qui nous reste, lancer quelques défis aux auditeurs et essayer d'aborder quelques-uns des grands thèmes et grandes interrogations aussi qui nous traversent, le Big Bang et la foi. On aura aussi la théorie de l'évolution et la foi, voire la vie extraterrestre et la foi, tout un programme. Si on commence donc par le début d'une certaine manière, même si le début est sujet à interrogation, c'est donc le Big Bang. Alors derrière le Big Bang, il y a une figure que ceux qui s'intéressent à ce sujet connaissent probablement et d'autres pas du tout. On va commencer avec vous, Jean-Michel Maldamé. C'est un certain Georges Lemaître qui était un prêtre et qui d'une certaine manière est un peu le père du Big Bang. Alors Big Bang, on peut commencer par ça. C'est une expression en fait, c'est une moquerie, c'est ça, d'un certain
oui,
Fred Hoyle à l'égard de Georges Lemaître.
Georges Lemaître est le premier à avoir écrit un article scientifique dans lequel il présente une nouvelle théorie de l'univers tirée des équations d'Einstein et des observations auxquelles il a participé quand il était aux États-Unis au Mont Palomar, qui fonde évidemment l'astronomie moderne et plus que l'astronomie, la cosmologie. On expliquera la différence entre les deux tout à l'heure. Donc, Georges Lemaître
juste
étant...
la moquerie de Fred Hoyle, c'est...
On va reprendre les choses à l'origine. Dans le modèle, on dit un modèle, parce que c'est une représentation que nous construisons, donc on ne prétend pas qu'on a le dernier mot de tout. Dans le modèle qui nous dit, dans la compréhension de l'univers, on s'appuie sur les équations de la relativité générale écrites par Einstein. Et, alors, une équation, ça a plusieurs solutions. En physique, on rajoute une constante et cette constante, elle vous donne une chose ou une autre. Et Einstein avait choisi la solution dans laquelle l'univers était statique, n'évoluait pas, ne changeait pas, et sans commencement ni fin. C'est une solution. Et en travaillant ces choses, certains ont vu qu'il y avait aussi d'autres solutions, les spécialistes, dont Georges Lemaître, mais pas le seul. Les observations faites par Hubble et Georges Lemaître, sur le plus grand télescope de l'époque, au Mont Palomar, aux États-Unis, ont montré que cette solution statique n'était pas bonne et qu'il fallait donc une solution des équations d'Einstein, de la relativité générale, qui s'inscrivent dans le temps et qui, quand on parle du temps, nous renvoie à l'idée de commencement. Et alors, donc, c'est là dans l'article, Georges Lemaître explique qu'il faut préférer ce modèle qui correspond aux observations. Mais tout de suite, on a dit, et Einstein le premier, et Fred Hoyle après à sa suite, on dit, mais enfin, monsieur l'abbé, vous êtes en train de faire du concordisme, vous justifiez le texte de la Genèse qui dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. D'où une opposition forte d'Einstein pour sa philosophie un peu immanentiste, et où la philosophie résolument athée représentée par Fred Hoyle et bien d'autres qui ont dit, mais c'est, Einstein a dit, c'est de la métaphysique de curé. Alors,
c'est de la moquerie. Alors juste,
donc c'est la raison pour laquelle l'expression de Big Bang était une expression de dérision employée par Fred Hoyle contre cela. Mais la dérision a souvent plus de force que les lectures mathématiques. Et donc c'est cette expression qu'on emploie et qui, au sens strict, ne veut rien dire.
Alors il y a des choses qu'on va déplier dans ce que vous avez dit. Si on continue peut-être de présenter Georges Lemaître, et je vous laisse encore à la manœuvre avant de passer la parole à François Couderc. Georges Lemaître, c'est donc un prêtre.
Oui.
Donc né en 1894, décédé en 1966. On dit qu'il aurait pu avoir le prix Nobel, donc il était à la fois prêtre et bien prêtre, membre d'une fraternité sacerdotale, des Amis de Jésus, professeur d'université donc à l'Université de Louvain, mais aussi en fait un scientifique extraordinaire.
Ah, c'est un scientifique extraordinaire, d'ailleurs c'est... Alors, Einstein est connu parce qu'on apprend ça à l'université. À l'époque, c'était tout à fait nouveau, étant qu'il est un des premiers à avoir vu l'importance de la relativité, qui était contestée par ailleurs. Il a eu la chance de faire partie de ce nombre de gens qui connaissaient bien Einstein, qui avaient bien compris Einstein, qui connaissaient bien ce qu'il faisait. Il a eu la chance de pouvoir travailler concrètement en astronomie sur les meilleurs instruments de l'époque pendant une période aux États-Unis. Et donc, il a eu l'idée de présenter un modèle d'univers auquel personne n'avait pensé avant, qui suppose une expansion de l'univers. Donc, l'univers est en expansion, c'est un fait d'observation. Alors, quand on le met en expansion, on se dit, mais ça part d'un point initial. Et alors c'est ce point initial qui fait problème. Lemaître dit « ce point initial nous est inaccessible ». Donc parler d'un point zéro, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de la science. Mais il empêche que la vulgarisation parle d'un point zéro, et c'est ça l'enjeu du débat philosophique, c'est que le modèle standard a une singularité mathématique, mais pourquoi en faire le point zéro? C'est un point qui n'est pas forcément un point zéro. Alors, on va rentrer peut-être dans les détails, mais pour l'instant, il faut donner la parole à François Couderc.
François Couderc, est-ce que vous pouvez nous faire, on va dire, la découverte de Georges Lemaître, même si Jean-Michel Maldamé a commencé de la faire, on va dire, pour les nuls, si j'ai bien compris, c'est à la fois, on va dire, il a vu des choses dans la découverte d'Einstein et dans les découvertes de Hubble, et des deux, il en a, entre guillemets, tiré une théorie ou à certaines conclusions. Alors, expliquez-nous peut-être les deux découvertes, et puis sa découverte à lui.
Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais quand même, parce que c'est le point central, me semble-t-il, de votre émission, je voudrais quand même dire qu'il est né donc en 1994, toutes ces études qu'il fait en partie, comment chez les jésuites, quand il est petit, chez les jésuites, donc ça veut dire que avant-guerre, il est au contact avec cette réaction antipositiviste du pape sur tous les dangers scientifiques qui conduisent à la foi. Et donc, pour moi, il est important de voir que dans toute son enfance et dans toutes ses études de jeune homme, il est bercé par l'encyclique Pascendi où vraiment le pape mentionne qu'il faut faire attention sur le développement des sciences. Il n'est pas hostile aux sciences, ils disent, mais il faut faire attention parce que même dans le clergé, il y a des gens qui ont des idées qui dévient de la foi.
Ceci étant posé,
ce point-là est important parce que il me semble que c'est que la pensée religieuse de Lemaître va se construire dans cette ambiance. Je ne sais pas ce qu'il en pense de Pascendi, moi. Mais il n'empêche que l'ambiance, elle est là.
Alors, voilà. Ceci étant posé, François Couderc, quelle est sa découverte? Essayons de ne pas perdre les auditeurs, peut-être avec de trop grandes digressions historiques.
Sa découverte, elle a été, comme a dit Jean-Michel tout à l'heure, il a travaillé beaucoup sur la physique d'Einstein, et sa découverte, ça a été de voir que l'univers est en perpétuelle progression, voilà, en expansion. Chose que Einstein lui-même pensait qui était faux. Voilà. Donc sa découverte, elle est là. L'univers est en extension et il l'a faite parce qu'il a travaillé, il était capable de travailler avec des astrophysiciens de renom de l'époque et donc de révolutionner un petit peu. Il n'a pas été le seul.
Est-ce que vous pouvez parler aussi de ce qu'il a découvert grâce aux travaux de Hubble, cette fameuse lumière rouge?
Je ne suis pas suffisamment physicien pour parler de ça, mais cette lumière rouge permet de montrer que l'univers est en expansion. Voilà. C'est en observant des traces de lumière ancienne et du début de l'univers, qu'il a pu montrer que l'univers est en expansion. Alors, pour faire un cours de physique là-dessus, en tant qu'universitaire, j'aurais du mal, mais je vais en rester avec ça. C'est en découvrant le spectre des lumières anciennes qui nous arrivent donc après plusieurs millions d'années-lumière que l'on peut voir qu'effectivement l'univers est en expansion. C'est ce qui permet d'observer, donc d'être sûr que cet univers est en expansion, et c'est ce qui a permis Einstein de modifier sa vision.
Jean-Michel Maldamé, est-ce qu'on peut préciser un tout de manière pédagogique, mais un tout petit peu plus, parce que là on entend qu'il a découvert que l'univers était en expansion, mais on comprend pas très bien peut-être comment il en est venu à cette conclusion.
Oui, les équations d'Einstein peuvent avoir plusieurs solutions en fonction d'un certain nombre d'éléments qu'on calcule, qui sont de la mathématique très précise et très juste. C'est les observations faites par Hubble au Mont Palomar et Georges Lemaître étaient présents à ce moment-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on reconnaît Georges Lemaître dans le monde scientifique en disant que la loi qui préside à cette expansion doit s'appeler la loi de Hubble-Lemaître. Donc le mot de Lemaître fait partie maintenant des manuels de physique et d'astronomie et de cosmologie. Voilà, donc c'est une reconnaissance récente mais importante. Donc on observe le ciel, on sait mesurer le ciel, on mesure la distance par effet de même qu'on sait très bien que quand vous avez une voiture qui passe devant vous, quand le son vous arrive ou quand le son est passé derrière, c'est plus exactement le même. Donc c'est la même chose pour la lumière qui est une vibration. Donc on mesure et on calcule tout ce qui se passe. Ce que ont montré les observations de Hubble dans le plus grand télescope de l'époque, qui était le premier, on en fait depuis de plus grands encore, c'est de montrer que d'abord l'univers est plus grand qu'on ne le pensait avant. On voit plus loin, on voit mieux ce qu'on n'avait jamais vu, très mal, donc on a une très bonne connaissance et on ne cesse d'améliorer ses connaissances. Et deuxièmement, que toutes les galaxies, qui sont l'unité de l'univers, s'éloignent, et ce d'autant plus vite qu'elles sont d'autant
plus
loin. Voilà, ce qui est un paradoxe par rapport à notre expérience où les choses qu'on lance, elles finissent par se ralentir avant de tomber. C'est l'inverse. Alors, ce qui suppose de renverser les choses, ce n'est pas les choses qui bougent dans l'espace, mais c'est l'espace qui bouge et qui emporte les choses qui bougent avec lui. Alors, c'est un renversement conceptuel. Ça se comprend très bien sur des exemples très simples. Vous prenez un élastique, vous marquez des points, vous tirez l'élastique, tous les points s'écartent, et ils s'écartent si vous faites ça vite, d'autant plus vite qu'ils sont plus loin. Ce qui est prêt, en une seconde, ira un peu plus loin, mais tout près, et celui qui est déjà bien séparé ira un peu plus loin, mais encore beaucoup plus loin. Voilà. Donc c'est une explication très simple. Le problème n'est pas sur l'expansion de l'univers. Le problème, c'est sur ce qui deviendra après, à la fin du monde, et sur les premiers instants.
Alors lui, il a une expression, semble-t-il, c'est atome primitif, c'est ça ?
Georges Lemaître a fait de la philosophie, et donc il va employer le mot atome dans son sens premier. Le mot atome, c'est ce qui est insécable. On ne peut pas couper. Et on ne peut pas le couper, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette réalité, il n'y a ni haut, ni bas, ni devant, ni derrière. C'est ce qu'on appelle une singularité en mathématiques. Donc, on a un état premier un état premier à partir duquel tout a commencé. Mais cet état premier, et c'est tout le problème de l'astronomie d'aujourd'hui, la cosmologie, nous ne pouvons pas y accéder.
Alors,
et c'est ça qui fait difficile, ce qui fait que la réponse à la question de cet état, elle est nécessairement une option philosophique.
Si on s'arrête un tout petit peu là-dessus, en préparant l'émission, j'ai vu donc on parlait d'une époque qui remonterait à 13,7 milliards d'années, oui. Et qui a en fait un moment où on n'arriverait pas à remonter plus loin, le fameux mur de Planck.
Ce qu'on appelle le mur de
10
Planck.
10 puissance
oui.
43.
Oui.
Alors expliquez-nous ce qu'est ce mur de Planck.
Ce mur de Planck, c'est un peu compliqué. François Coudert vous expliquera ça mieux que moi. Voilà, François va le faire. Mais le mur de Planck, c'est que plus on va dans l'infiniment petit, plus les choses sont... On est en mécanique quantique, on a des distances qui sont extrêmement petites et on ne peut pas aller plus loin. Voilà, donc pour nous, c'est un mur, c'est une image. Alors, de fait, en allant le plus en arrière possible, on fait des théories, on construit des théories en attendant leur vérification et on s'aperçoit que chaque fois, on tombe, à un moment donné, on dit, ben, au-delà de ça, on ne sait pas. Voilà. Donc on est devant quelque chose qui, où nos connaissances et nos capacités intellectuelles trouvent leurs limites. Alors on dit le mur de Planck, mais ce n'est pas un mur. C'est la limite de nos capacités d'analyse intellectuelle et scientifique.
François Coudert, qu'est-ce que vous rajouteriez sur ces débuts ou ces commencements où est-ce qu'on en est peut-être aujourd'hui de la recherche scientifique?
Alors, à partir du moment où vous utilisez des équations pour modéliser ce qui s'est passé, au bout d'un certain moment, vous arrivez à l'impossibilité d'aller au-delà de l'équation. D'accord ? Et si n'importe quelle équation, par exemple, quand vous arrivez, je prends une chose simple, quand vous divisez par une valeur qui est très proche de zéro, bon, vous arrivez à diviser, et puis à un moment, quand vous les divisez par zéro, vous ne pouvez plus, parce que diviser par zéro, on ne sait pas diviser par zéro. Donc, à partir du moment où vous utilisez les équations, il y a un moment où vous ne pouvez plus utiliser l'équation, parce que mathématiquement, elle ne fonctionne plus. Donc, ces théories reposant quand même sur du calcul, à partir d'un moment, on s'arrête de pouvoir calculer.
Alors, François Coudert, juste avant qu'on fasse une première pause, j'ai lu aussi une chose, c'est qu'il aurait pu être prix Nobel, ce Georges Lemaître, et que la reconnaissance, en fait, on va dire finale de la validité de sa théorie est intervenue à la fin de sa vie par la découverte de deux astronomes, Penzance et Wilson, qui eux ont eu un prix Nobel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça?
Oui, alors vous expliquez la dynamique du prix Nobel, c'est quelque chose qui n'est pas facile, hein. Tous les ans, vous avez des gens qui
je vous coupe parce qu'on ne se voit pas, mais ma question ne portait pas sur la raison pour laquelle il n'a pas eu le prix Nobel, mais peut-être cette découverte qui est venue valider sa théorie à la fin de sa vie.
Ah, je ne peux pas vous dire.
Oui, je peux le dire.
Allez-y, Jean-Michel Maldamé.
Comme j'ai appris ça à l'école, quand je faisais des mathématiques, j'ai suivi un cours passionnant de cosmologie à l'époque. Donc, c'est qu'on ne peut pas le voir, hein. Voilà. Mais on observe l'univers pas simplement par la vue. Et en particulier, on observe l'univers avec des radars. Voilà. Donc c'est un peu par hasard qu'on perçoit un rayonnement avec des radars, pas à la vue. Eh bien, on s'est aperçu que la théorie nous disait qu'il y aurait à tel moment initial dans le déroulement, dans des choses connues, un état où on aurait telle structure et tel modèle d'univers qu'on ne voit pas. Eh bien, Penzance et Wilson ont observé en radar, hein, des émissions radar, c'est pas dans un télescope, c'est au radar, dans les grands systèmes de radar qu'on avait à l'époque, on les avait construits pour les satellites, dont on surveillait les satellites. Ils sont aperçus qu'il y avait quelque chose qui est la trace de l'état de l'univers qui est premier.
Donc voilà. Un rayonnement homogène et dans tout l'univers.
Un rayonnement homogène, et c'est ça, me semble-t-il, la grande révolution philosophique qu'il y a derrière ce qu'on dit, et qui est difficile à dire parce que ça, c'est des équations, il faut les écrire au tableau. Dans ce qu'on dit, c'est qu'on a, avec Einstein et avec Georges Lemaître et la suite, on a redécouvert le sens du mot cosmos. C'est-à-dire qu'on a redécouvert que le cosmos fait une unité parce que tout est inscrit dans la même histoire. Et ça, c'est ça la grande révolution philosophique qu'a derrière la cosmologie moderne, qui a commencé avec les équations d'Einstein et qui s'est concrétisée dans la théorie dont Georges Lemaître est l'initiateur, le premier à dire, mais pas le seul à l'avoir développé, d'autres l'ont fait. On a un univers à penser comme unité.
Allez, on va faire une première pause et puis on va vous retrouver pour continuer à parler science et foi autour de cette question du Big Bang.
Emmanuel Pella.
Le Big Bang et la foi, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Autour du plateau, Jean-Michel Maldamé, religieux dominicain, membre honoraire, et prêtre et membre honoraire de l'Académie pontificale des sciences, et François Couderque, qui est diacre et professeur à l'Université Toulouse 3, Paul Sabatier. Je l'ai dit en introduction, et c'est vrai que ça va sans dire presque, quand on s'intéresse au Big Bang, vient tout de suite, quand on est croyant, des questions afférentes au récit des origines. Alors j'aimerais qu'on recommence pour lancer cette conversation sur un discours, qui est un discours donc, de Pie XII à l'Académie pontificale des sciences, c'était en 1931. Il faut dire aussi, et on ne l'a pas dit, que Georges Lemaître en a été, je crois, son premier président, c'est ça hein deuxième président, pardon, de l'Académie pontificale des sciences. Bref, il était connu à Rome. Et Pie XII, donc, en 1931, a eu un discours dans lequel il dit, entre autres, « La science a réussi à se faire témoin de ce fiat initial. » Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce discours de Pie XII? Jean-Michel Maldamé, le pape est allé un petit peu vite en musique, on va dire, pour Georges Lemaître, et il a vu dans cette découverte appelée aujourd'hui du Big Bang comme une confirmation quoi, de ce oui des origines qui a été celui
oui.
de la création.
Effectivement, il y a eu un conflit entre le pape. Il n'y a pas qu'un discours, il y a deux discours qui ont fait beaucoup de bruit à l'époque. Donc la théorie présentée par Georges Lemaître, mais pas tout seul, parce qu'il est le premier à l'avoir écrit dans un article scientifique, il avait fait le deuxième grand article scientifique très développé pour convaincre les autres, et peu à peu, d'autres ont suivi cette voie. Donc c'est une idée qui n'est pas l'idée d'un homme seul, c'est l'idée d'une certaine communauté scientifique qui a des adversaires, pour des raisons plus idéologiques proprement scientifiques. Alors, dans le milieu des gens qui suivaient un peu ce nouveau modèle, s'est trouvée, je dirais, la solution de facilité, je suis très critique, en disant, mais en plus qu'on a un univers qui s'inscrit dans le temps, qui a un état initial, pourquoi ne pas l'identifier avec la manière habituelle de lire le récit de la création qui dit qu'au commencement, donc voilà, nous avons une preuve scientifique de la vérité du texte de la Genèse traduit habituellement par au commencement, ce qui on verra tout à l'heure.
C'est pas ce qu'a dit Pie XII quand même.
Alors c'est un peu la mentalité d'un certain nombre de gens. Et Pie XII reprend cette idée. Que nous avons une découverte scientifique, alors il dit ça prudemment, pas aussi simplement et brutalement que je le résume, dit que là on a un élément de concordisme entre le texte, le premier verset de la Genèse, tel qu'on l'entend habituellement dans la catéchèse, et la nouvelle théorie scientifique. Ce qui fait un écho considérable dans le monde, parce que nous sommes dans les années 30, et il faut voir que la pensée scientifique est dominé par le monde athée, et en particulier dans le monde communiste, où il y a de grands savants, en particulier en URSS. Donc ils disent, le pape fait une espèce de concordisme, il fait de la...
Concordisme, je précise, c'est vouloir, on va dire, faire en sorte que foi et science se réunissent.
De dire que,
sur
ce point, le texte biblique et le texte et les travaux scientifiques coïncide.
Alors avant qu'on parle du concordisme, alors, donc, quelle a été la réaction de Georges Lemaître à ce
discours?
Donc,
c'est un discours qui ne fait pas à l'Académie pontificale des sciences. Il le fait à un congrès, hein, peu importe. Fait ce discours et Georges Lemaître est très, très heurté par l'interprétation dont il voit que c'est une interprétation qui ne respecte pas les limites du savoir scientifique.
C'est
ça sa réaction. Alors, il intervient pour relever ce point, mais malheureusement, le pape reprend ensuite ceci dans un autre discours, quelques mois après, où il atténue un peu, mais il continue dans la même chose. Donc, alors, il y a une tension très forte.
Vous dites que pour Georges Lemaître, il y a deux erreurs là-dedans, et quelles sont-elles alors?
Alors, le premier élément, c'est d'identifier un discours théologique, une lecture théologique du verset de la Genèse, avec une théorie scientifique, comme si la science et la foi étaient confondues. La science et la foi sont spécifiquement distinctes. Elles ne se confondent pas, même si elles se croisent et si elles se rencontrent. Et la deuxième erreur, c'est que la notion de commencement, ça c'est moi qui parle plus en tant que théologien, la notion de commencement n'est pas identifiée à la notion de création. On peut très bien avoir une création sans commencement. Alors c'est un débat de théologie.
Alors on va y revenir sur cette distinction entre commencement et création. François Couderque, sur ce discours de Pie XII ou sur le concordisme?
Alors le discours a lieu après-guerre, il est en 51.
Il est de 1931.
Non, pardon. 51.
Ah bon,
il y a plusieurs.
Oh, excusez-moi, 51. Pardon. Excusez-moi.
51, c'est. Voilà, 31, Pie XII.
31, Pie XII, je n'étais que.
Peu importe, excusez-moi, vous avez raison. Oui,
j'ai relevé, là, pour l'émission, une petite phrase, un petit texte de Lemaître qui lui-même s'expliquait sur cette difficulté qu'il pouvait y avoir entre science et foi. Donc, il fait 10 lignes, je vais en prendre que 3 ou 4.
Allez-y.
Lemaître parle du savant, hein, nous sommes loin du savant d'aujourd'hui avec les problèmes biologiques. Hein. On est là dans une pensée d'avant-guerre, où il n'y a pas toutes les problématiques que peut poser la biologie aujourd'hui. Donc, il parle du savant en disant, lorsqu'il pense aux vérités de la foi, il sait que ses connaissances sur les microbes, les atomes ou les soleils ne lui seront ni un secours, ni une gêne pour adhérer à la lumière inaccessible, et qu'il lui restera, comme à tout homme, attaché de se faire un cœur de petit enfant pour entrer dans le royaume des cieux. Ainsi, foi et raison, sans mélange, inconvenant, ni conflit imaginaire, s'unissent dans l'unité de l'activité humaine. Voilà. Et il commence ce petit texte en disant « Le chercheur fait abstraction de sa foi dans sa recherche. » Voilà. Non pas que sa foi pourrait l'encombrer, mais parce qu'elle n'a rien directement à faire avec son activité scientifique. Voilà. Alors, chez le maître, il n'y a pas de concordisme. Et c'est une pensée relativement nouvelle, je veux dire, parce qu'on est quand même là en 1936. Il me semble que le concordisme était plutôt quelque chose de mise, c'était comme ça, plutôt que cette pensée de le maître. Alors d'autres avaient la même pensée que le maître, mais ils étaient certainement moins nombreux.
Jean-Michel voilà. Maldamé, vous dites qu'il faut faire donc une distinction entre création et commencement, et que souvent justement la confusion entre les deux n'aide pas à penser justement.
Oui, alors là on va faire un peu de théologie, c'est le théologien qui parle. Le texte de la Genèse est traduit habituellement par « au commencement ». C'est une traduction qui est tout à fait correcte, mais c'est une traduction qui est un peu réductrice. Alors pourquoi est-ce qu'on a, dans l'Église et dans la tradition chrétienne, fait ce blocage entre la création et le commencement? C'est chez les pères grecs, parce que la vision païenne des Grecs, c'était l'univers cyclique. Donc on avait la grande année, on revenait au point zéro et ça recommençait indéfiniment. Lisant la Bible, les pères ont dit « mais cette vision sans commencement ni fin, parce que c'est un cycle qui se reprend au point de départ, c'est désespérant, alors que nous allons vers une Jérusalem céleste qui sera une nouvelle création, et corrélativement, il y a un point de départ. » Alors c'est la raison pour laquelle la tradition chrétienne a insisté sur le fait que, dans la théologie chrétienne, recevant la Bible et les paroles des prophètes, il faut parler d'un commencement et d'une fin du monde, pas l'éternel recommencement qui est une roue indéfinie dans laquelle on désespère. Alors, c'est donc cette tradition. Alors, il n'empêche que si on se met du point de vue du concept pur de création, où Dieu crée, la notion de création n'implique pas la notion de commencement. Alors, il y a un débat très célèbre de théologiens entre l'école de saint Thomas d'Aquin et l'école de saint Bonaventure, plutôt chez les franciscains au Moyen-Âge. Saint Thomas dit clairement que la notion de création n'implique pas un point zéro, un commencement, parce que Dieu éternel transcende le temps et il peut très bien créer un monde sans commencement ni fin, sans que ça soit contraire à la notion même de création. Alors, la tradition adverse dit, mais non, le monde est forcément fini, puisqu'il est fini, il est marqué par le temps, donc il doit avoir un commencement et une fin. Donc on a un débat métaphysique sur l'acte créateur. Alors, saint Thomas dit clairement que la notion de création n'implique pas la notion de commencement comme point zéro. Alors, il se rallie à la position...
Parce que Dieu est indépendant du temps, entre guillemets.
Parce que Dieu n'est pas dans le temps. Donc Dieu n'est pas un artisan qui est dans le temps, et pour lui il n'y a ni avant ni après, il est tout le temps présent. Alors c'est là, on en fait de la théologie, alors je commence à dire les choses théologiques, c'est que nous pensons la création souvent sous le mode du commencement, ce qui n'est pas faux. Mais nous, en ce faisant, nous la réduisons. La création, elle n'est pas au passé. La création, et c'est ça qui est très très important à dire, je dirais, pour les physiciens, pour les philosophes et pour, je dirais, tous les chrétiens, c'est que la création, c'est au présent. C'est maintenant, à l'instant où nous sommes, à l'instant où je parle, à l'instant où vous m'écoutez, que Dieu crée, sans quoi ce serait rien. Donc la création, c'est le présent. L'acte créateur est au présent. Il n'est pas un acte du passé. Alors que ce présent est un antécédent, bien sûr. Moi, je parle aujourd'hui, mais je vivais hier et je suis né il y a un certain nombre d'années. Et ma vie va durer un certain temps encore, j'espère. Peut-être 24 heures, peut-être 6 mois, je n'en sais rien. Mais donc je suis dans le cours du temps. Mais c'est maintenant, à l'instant, que je suis créé. Et c'est pourquoi, moi je suis dans la ligne de saint Thomas d'Aquin, et Georges Lemaître aussi, en disant qu'il faut séparer la notion de commencement avec la notion de création. Alors, ce qui renvoie au problème de catéchète de la traduction de la Genèse.
Alors, vous laissez entendre aussi que c'est une erreur que commettent d'autres, si on revient à Einstein, que cette confusion entre commencement et création, elle est aussi elle n'est pas l'apanage des chrétiens, d'autres font la même erreur, mais dans l'autre sens.
Oui, c'est le problème que la mentalité commune est restée marquée par un catéchisme dans lequel on disait ben, il y a un commencement, et donc on identifiait la création et le commencement, et c'est dramatique parce que dans cette perspective, Dieu crée au commencement et ensuite il abandonne les choses.
Prenez l'exemple d'Einstein alors que vous prenez...
Einstein, lui, est juif d'origine, sa philosophie, c'est la philosophie de Spinoza qui est une espèce de panthéisme diffus. Voilà. Donc la philosophie d'Einstein, la métaphysique d'Einstein, c'est les spinozistes, une espèce de panthéisme. Donc il y a une religion immanente au monde.
Panthéisme, c'est de voir Dieu partout.
Dieu est présent dans les choses, et donc la question de la création ne l'intéresse pas, puisque Dieu est présent dans les choses. La question de la création ne se pose pas.
Oui, j'ai cru comprendre qu'il y avait une forme d'invalidation de... que la théorie de la relativité générale, c'était un modèle statique sans fin ni commencement aussi.
Oui, l'équation, elle est sans fin ni commencement, si vous la prenez comme telle. L'équation, comme équation, la cosmologie et l'astrophysique vous obligent à passer à la réalité. Donc à ce moment-là, de voir les choses concrètes existant réellement.
François Gouderque, avant qu'on fasse une deuxième pause sur cette notion de création et de commencement, est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose ?
Je crois que, comme dit le maître, et puis Jean-Michel est un des tenants de ça aussi, la foi complète notre approche des sciences, et les sciences n'ont pas à compléter la foi, si ce n'est qu'à dévoiler les choses, petit à petit, à dévoiler les choses, à voir que peut-être ce qu'on a vu au catéchisme était dans un schéma philosophique ou un schéma de réflexion particulier, et que grâce à la science, on peut petit à petit mieux accéder à l'idée du divin, et que tous les jours, le Dieu est avec nous. Voilà, et qu'il refait cette création tous les jours, à chaque instant, avec nous. Voilà, il n'y a rien de plus à ajouter, et il n'y a certainement pas à prendre de ces visions scientifiques, de ces découvertes scientifiques, appui pour dire Dieu n'existe pas. Voilà, ou être déstabilisé par de telles approches pour dire tu vois bien que Dieu n'existe pas.
Allez, on fait une deuxième pause et puis on va vous retrouver sur ce thème Big Bang et foi. Thank you.
Radio Présence à Montauban, 93.3. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Big Bang et foi, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin autour du plateau. Pour nous accompagner, Jean-Michel Maldamé, religieux dominicain, prêtre, membre honoraire de l'Académie Pontificale des Sciences, et François Couderc, diacre et professeur à l'Université Toulouse 3, Paul Sabatier. Jean-Michel Maldamé, si je vous ai bien compris, il y a aussi derrière, on va dire, la manière que l'on a de faire de la science, des représentations du monde que l'on a, et derrière ces représentations du monde, des systèmes philosophiques. Vous en distinguez trois et vous dites qu'ils irriguent quelque part la pensée scientifique et que s'il y a une philosophie chrétienne, eh bien elle doit se frayer un chemin au milieu de ces quatre grandes philosophies. Alors est-ce que vous pouvez nous détailler la philosophie platonicienne, aristotélicienne, quant à la vision du monde bien sûr, atomiste et stoïcienne?
Oui, vous entrez en philosophie et c'est très, très opportun parce que nous avons parlé de la science rigoureuse, les équations d'Einstein, le mur de Planck, et donc la physique quantique. Nous avons parlé aussi de théologie, le problème de la création, et la difficulté, c'est que le désir d'unité de l'esprit humain n'est pas à l'aise quand on met ces deux mondes séparément, et on essaie de les faire se rencontrer. Alors c'est là, effectivement, que se fait le cœur de notre débat et de la difficulté, c'est que il faut, entre les propositions théologiques, je parle de la théologie chrétienne d'un Dieu unique et transcendant, personnel, et la science, Einstein et la mécanique quantique aujourd'hui qui est à la pointe des difficultés pour les physiciens, on a deux univers conceptuels construits par les humains, et si on veut les faire dialoguer, la difficulté c'est que c'est il faut un pont de communication, il faut un pont. Eh bien, cette médiation ne peut être que philosophique. Et souvent, ce qui est difficile, c'est que les scientifiques ne sont pas formés à la philosophie, et surtout les scientifiques nord-américains. À la différence des Français, parce qu'en France, on a pour le baccalauréat la philosophie, ce qui fait que même ceux qui font des sciences ont des options philosophiques. Et souvent, la catéchèse ou les croyances sont un peu fidéistes, et donc ils n'ont pas fait de philosophie. Mais il me semble, et ça j'en suis persuadé, et c'est un peu, je pense, un des éléments de l'Académie Pontificale des Sciences, où je suis non pas en tant que scientifique, mais en tant que philosophe, c'est de dire que si on veut faire dialoguer le monde de la théologie, le monde de la philosophie, il faut une médiation philosophique. Et cette philosophie, elle n'est pas monolithique. Et souvent derrière les conflits, on voit apparaître des options philosophiques qui ne sont pas toujours clarifiées, parce que c'est des scientifiques ou c'est parce que c'est des catéchistes ou des apologistes chrétiens qui demandent des explications. C'est pourquoi dans le travail que j'essaie de faire, j'essaie de me dire, mais quelle est la philosophie immanente fait, on s'aperçoit que la philosophie, il y a plusieurs courants philosophiques. Vous avez la philosophie de type moniste qui donne le panthéisme, qu'on trouve chez Einstein, par exemple, qui est disciple de Spinoza, lequel continue une tradition qui trouve sa force dans le stoïcisme, dans lequel le divin est immanent au monde, et immanent à la nature. Voilà. Donc on a une certaine immanentisme, auquel cas on est devant quelque chose.
Expliquez ça pour une classe d'adolescents.
Oui, pour une classe d'adolescents.
C'est-à-dire, cette philosophie stoïcienne immanentiste, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que si...
Quelle vision du monde?
Si vous voyez un admirable lever de soleil ou un émouvant coucher de soleil, vous direz c'est Dieu qui se manifeste sans médiation. Non, c'est pas Dieu qui se manifeste, c'est beau, c'est l'œuvre de Dieu. Donc je ne confonds pas Dieu, c'est pas une manifestation de Dieu comme telle, c'est une manifestation d'une œuvre que Dieu a faite dans laquelle il marque sa trace. Donc il y a une médiation critique qui n'est pas ce sentiment qu'on trouve chez les romantiques dans l'émotion.
Donc il y a une unité, mais la nature est habitée donc par un logos.
La notion
de providence au milieu.
Oui,
de...
alors la notion de providence est une notion classique qui se situe non pas directement dans la notion de création qui fait que les choses existent comme telles, mais dans le devenir des choses, comment est-ce que Dieu est présent et agit dans le devenir des choses.
Alors ça, c'est le modèle stoïcien.
Alors vous avez un modèle de type stoïcien, vous avez un modèle dualiste qui consiste à séparer les choses. Hein. L'un c'est de la matière, l'autre c'est de l'esprit, la matière et l'esprit n'ont pas de rapport, les atomes c'est les atomes, et l'esprit, c'est immatériel, donc c'est un dualisme, beaucoup de gens sont dualistes dans le monde chrétien. Vous avez au contraire des gens qui essaient de trouver l'unité et l'harmonie et une certaine hiérarchisation de participation graduée. Alors c'est l'idée qu'on trouve un peu chez saint Thomas, d'une espèce de gradation des êtres depuis une matière qui est tout à fait informe, qui prend une forme mais qui devient chez le vivant une forme qui accède à la réflexion, à laquelle réflexion accède au monde de l'esprit, et le monde de l'esprit ça peut être aussi les êtres totalement immatériels jusqu'à l'être même de Dieu qui est au-delà, ce qui n'est pas un être matériel. Donc nous avons plusieurs philosophies.
Cette représentation du monde, cette dernière philosophie que vous venez de citer, elle a un dire un père
tout
ou...
ça, tout ceci se trouve un peu dans les différents courants qu'on rencontre. Alors c'est difficile de faire des statistiques sur ce monde-là. Pour revenir à Georges Lemaître, lui a été formé à Louvain dans une tradition thomiste, et c'est la raison pour laquelle il distingue très nettement la notion de création de la notion de commencement, comme je le disais. Donc c'est très libérateur. Il a été aussi très marqué par une vie spirituelle très intense. C'est un homme de prière, un homme de prière silencieuse, un homme de prière... Pas dans les grandes manifestations liturgiques, mais dans les manifestations très intimes. Il faisait oraison tous les matins, il se levait tous les matins à 5 heures, il ne commençait pas à faire oraison avant d'aller au travail. Donc c'est un côté mystique. Il a un grand sens de la transcendance de Dieu et de l'espace, en quelque sorte, de liberté que laisse cette affirmation, la transcendance. Et donc on a une spiritualité de la transcendance qui lui donne cette liberté pour pouvoir faire un travail scientifique. Alors de ce côté-là, il est très attiré par la pensée de Pascal. Voilà. Donc il y a toute une trace de Pascal qui distingue bien l'ordre de l'esprit, l'ordre des corps, l'ordre... voilà. Donc c'est cette trace spirituelle qui, parce qu'il est spirituel, lui donne la liberté de regarder les choses dans l'objectivité, d'avoir une formulation scientifique de la réalité qui ne soit pas un mixte de spirituel et de poétique ou de sentimental.
François Goudergue, peut-être le mot de la fin pour vous. C'est une chose en fait qu'on a entendue en filigrane de cette émission. Ça va sans dire, mais ça veut mieux en le disant, comme le disait autrefois une chronique de Télérama. La théorie du Big Bang, quoi qu'il en soit, ne répond pas à la question d'où je viens. Que dirait le diacre que vous êtes sur ce sujet?
Alors... La théorie du Big Bang, elle me fait penser à Lemaître et à sa vision des choses sur Dieu, à sa vision des choses bibliques sur Dieu. À savoir, il évoque souvent Isaïe et dans ce passage d'Isaïe où Dieu dit « Je suis un Dieu caché, il n'y en a pas d'autre ». Et c'est vrai que notre espérance, elle est dans ce Dieu personnel, mais caché, qui se révèle certes parmi les œuvres que l'on peut contempler, mais qui demeure quand même un Dieu caché, c'est-à-dire c'est un Dieu que je ne peux pas mettre en équation, et aucune équation me fera remonter à Dieu, si ce n'est de me dire que... il n'est pas accessible à ma mesure, mais il est accessible à ma foi, à ma conscience. Voilà. Donc le diacre universitaire des sciences dures, je ne suis pas physicien, je suis chimiste, et de dire que Dieu, c'est par le cœur qu'on y accède et non pas par la mesure, parce que c'est un Dieu caché.
Eh ben, merci à vous de nous avoir pris par la main dans cette, en fait, cette grande aventure, si l'on est, de remonter au commencement et non pas à la création pour cette émission, le Big Bang et la foi. Un grand merci à vous. À la technique, Christophe Aubry, vous pourrez écouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.